Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Je me souviens notamment de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie dans la parfumerie et qui m'a dit « Non, mais vous pensez vraiment que Madame Michu, ça l'intéresse de savoir ce qu'il y a dans son parfum ?» Et en fait, vraiment, en entendant cette phrase-là, je me suis dit « ça, mais genre, mon level de motivation était passé à 150% instantanément. » C'est la première fois, en fait, depuis que je travaille, que je réfléchis pas activement au coup d'après. Je pense qu'il y a un renoncement à une forme de statut social quand même, parce que bah, je suis sur un sujet quand même très différent de celui sur lequel j'étais avant. Il y a peut-être moins aussi d'émulation intellectuelle dans ma vie tu vois, quotidienne, parce que quand t'es investisseur, c'est génial. En fait, tu passes ton temps à réfléchir sur les problèmes des autres, mais que sur des trucs intéressants, stratégiques. Enfin, tu vois, t'as pas tout le côté opérationnel, vraiment main dans le cambouis. Donc ça, c'est un truc auquel j'ai renoncé. Mais d'un autre côté, tu gagnes tellement en liberté et en indépendance que ça vaut tout l'or du monde.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier? Et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Il y a quelques mois, un ami m'a recommandé de regarder le profil de Marie-Hortense. Un grand merci Mathéi, car en effet, c'est une femme incroyable. Dans cet épisode, nous avons notamment parlé de comment concilier sa vie professionnelle et celui de devenir mère. Belle synchronicité, car cette semaine, mon fils a eu 10 ans. Cela fait donc 10 ans que je suis maman. C'est évidemment un cadeau du ciel, mais c'est un moment particulier dans la vie d'une femme. Je vous en parle d'ailleurs dans une vidéo sur Instagram. Revenons-en à Marie-Hortense. Elle a un parcours assez atypique, mais son CV est riche en expériences qui font bien. En effet, suite à Sciences Po Paris, elle devient consultante chez Bain, puis rejoint le prestigieux fonds d'investissement Partech. À 28 ans, elle rebat les cartes de sa vie et lance la première marque de parfums naturels en France, Bastille. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marie-Hortense Varin.
Bonjour Marie-Hortense.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ?
Ouais, alors j'ai choisi une combinaison en néoprène, voilà. Donc moi j'adore l'océan, c'est là où je passe la plupart de mon temps libre et pour moi la combi c'est vraiment une espèce d'objet magique où voilà, quand je la mets, il y a plus rien d'autre qui existe, je deviens une personne complètement autre et je m'en sers beaucoup pour faire du kitesurf, voilà, qui est l'activité dans laquelle je passe l'essentiel de mon temps libre aujourd'hui et de mes vacances.
Quand tu dis que t'es une autre personne, c'est-à-dire ?
Je pense que quand on est entrepreneur, on a toujours sa boîte en tête, même dans des situations incongrues et des moments quotidiens, voilà, inattendus. Et je pense que le kite, la mer en général, a une puissance qui fait que quand tu rentres dedans, ça disparaît complètement de ton esprit, et c'est une détente absolue. Voilà.
C'est Claire, la fondatrice de Loose Collection, que tu connais peut-être, ouais. Qui est une grande fan de kitesurf, qui avait d'ailleurs choisi le kitesurf comme objet pour se présenter.
J'ai hésité avec la planche, mais ce que j'aime bien dans la combi, c'est que c'est l'idée du corps à corps avec l'élément. C'est que vraiment, que ce soit kite, plongée, tout ce que tu peux faire dedans, dessous, voilà, t'es vraiment plongé là-dedans jusqu'au cou, quoi.
Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi ?
Alors, je suis née à Bordeaux, mais je suis pas du tout bordelaise et ma famille non plus. Moi, j'ai une famille qui est 100% champenoise. Voilà, ma mère et mon père viennent de Reims. Et en fait, la spécificité de mon enfance, c'est que moi, je déménageais à peu près tous les 3 ans. avec mes parents.
Parce qu'ils faisaient quoi, tes parents?
Alors, mon père travaillait dans l'automobile toute sa carrière. Et en fait, on était mutés très fréquemment et ma mère était en fait s'occupait de nous élever les quatre enfants et puis voilà de gérer la famille et donc du coup ça fait de moi je pense quelqu'un qui aime bien le changement et qui aime bien qui est toujours curieuse de découvrir d'autres personnes des nouvelles façons de faire et de penser.
Et aujourd'hui, c'est ce que tu ressens avec du recul. Est-ce que c'est ce que tu ressentais toi à l'époque, petite fille qui déménageait tous les 3 ans?
Il y a eu quelques fois où ça a été difficile. Je me rappelle de 1 ou 2 déménagements où c'était un peu plus des déceptions et c'était un peu plus un arrachement de partir. Surtout que c'était à l'époque où on n'avait aucun moyen de communication. Enfin, on n'avait pas les portables, on n'avait pas les mails. Donc, quand je déménageais, je savais que je perdais des amis. À moins de leur écrire des lettres, voilà, tous les 2 mois. Mais en même temps, globalement, ça a toujours été beaucoup de curiosité de se dire chouette, on va découvrir un nouvel endroit et on a habité un peu partout en France et on a fait des grands écarts aussi en termes de d'environnement social, etc. entre Versailles, Valenciennes, voilà, et puis Lyon plus tard pour mon lycée, donc pas mal de choses différentes.
Ouais. Et toi, comment tu t'acclimatais dans ça pour pouvoir justement surfer ou kitesurfer là-dessus?
Alors, ce qui est assez intéressant dans mon enfance, c'est que quand t'es nouvelle dans une école, tu débarques et tout le monde se connaît depuis plusieurs années. Par ailleurs, tu débarques avec un prénom qui est quand même pas facile. Donc, quand tu t'appelles Marie Hortense, globalement, les gens se font déjà un peu une idée de qui tu es avant même que t'aies ouvert la bouche. Et donc, t'as pas d'autre choix que d'être hyper sympa. Parce que sinon, personne te connaît, tu as globalement un prénom bizarre, donc les enfants se font très vite leur opinion à 6-7 ans. Et donc, je pense que ça a fait de moi quelqu'un qui essayait tout de suite d'aller assez rapidement en fait socialiser avec les gens. Et ma mère était très consciente de ça, parce qu'avant chaque rentrée dans une nouvelle école, le jour de la rentrée, elle me stockait des goûters dans mon sac. Comme ça, elle était sûre que j'allais me faire des amis à la récré. Donc voilà, c'était beaucoup de bon sens.
Ouais. Bah, c'est sûr que y a des prénoms qui sont plus ou moins connotés. Vous avez, avec tes frères et sœurs, vous avez tous des prénoms composés?
2 sur 4. Ouais, mon frère Pierre-Antoine et les 2 autres n'ont pas de prénom composé. Mais honnêtement, ça fait partie des choses dont tu fais une force au fil de l'eau. Et puis aujourd'hui, c'est assez agréable aussi d'avoir un prénom et un nickname, un surnom aussi, parce que tout le monde m'appelle MH, qui est reconnaissable et qui fait que tu l'entends pas partout dans la rue et que globalement c'est que toi, quoi.
Ouais, ça c'est un vrai sujet de savoir se dire que un truc qui potentiellement peut t'embêter et arriver à le transformer en force. À partir de quand t'as réussi justement à faire ce petit switch?
Alors moi, j'ai mis beaucoup d'énergie dans le fait de faire mentir mon prénom. Donc j'étais toujours fourrée dans des activités un peu, pas classiques du tout. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où voilà, j'ai eu un héritage un peu familial dont je me suis éloignée, je pense, comme tous les enfants, un peu pendant l'adolescence, et qui, au bout d'un moment, est redevenue une force. Et je pense à des sujets très personnels aussi, hein, comme celui de la foi, par exemple, qui m'a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir en parler, en fait, et de l'assumer, et puis d'y revenir peut-être un peu plus tard, après des années où c'était un sujet qui m'intéressait pas et dont je voulais pas entendre parler.
Ouais, en mode un peu rejet de la tradition familiale après en mode ça fait partie de moi et je veux l'assumer, mais
ouais, et puis peut-être aussi une capacité à le faire en tant que choix d'adulte. Je pense que c'était ça dont j'avais besoin. C'était à un moment donné, je pense, quand on passe un peu la vingtaine, on commence un petit peu à faire le tri, on se rend compte de ce qui nous constitue en tant que entre guillemets un peu inné et acquis. Et je pense qu'il y a des choses dont on s'éloigne pendant l'adolescence, et puis au final, en fait, on se rend compte qu'elles sont importantes pour nous, mais on a besoin de pouvoir poser un choix et un acte d'adulte dessus, et dire c'est vraiment moi qui choisis ça.
Ouais. Ouais, c'est pas je fais ça parce que on m'a éduqué comme ça et ça fait partie des codes de la famille. C'est vraiment mon choix et
complètement. Et en plus, mes parents m'avaient rien imposé du tout là-dessus. Ils étaient très très libres, donc c'est pas du tout.
Mais même en fait, ce qui est amusant, c'est que l'écosystème, tu vois, souvent, on en parle souvent. Alors pas forcément sur la foi, mais sur l'éducation et compagnie. C'est que même quand t'as des parents qui sont ouverts et compagnie, tu as quand même le carcan et l'univers dans lequel tu évolues, que ce soit l'école, la famille, les amis et compagnie, qui font que ça te met des choses en tête, alors qu'en fait, finalement, tes parents sont open, en fait.
Exactement, exactement. Et puis, les gens sont toujours plus complexes que ce qu'on peut en penser quand on les observe de l'extérieur. Et donc, moi, je pense qu'il y a des gens qui, s'ils observaient ma famille de l'extérieur, se diraient parfois, bah tiens, en fait, c'est hyper classique. Et puis, en fait, pas du tout. Mes parents, sur certains trucs, sont complètement pas classiques du tout. Ma mère était une bobo bio avant l'heure et un peu new wave sur certains aspects aussi. Donc, en fait, on peut se laisser surprendre aussi.
Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que c'était tes rêves à toi quand tu étais petite fille? Tu disais, ah, quand je serai grande, j'aimerais.
Alors, l'anecdote dont je me souviens très bien, c'est je devais avoir 8 ans. J'étais à une réunion de famille et un ami de la famille me demande, et toi, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard quand tu seras grande? Et le truc a fusé tout seul et je lui dis, je voudrais être ministre de la Défense. Alors, complètement. Et en fait, c'est assez marrant. Ça m'est resté en tête et j'ai réfléchi des années plus tard à pourquoi j'avais dit ça. Et en fait, c'était l'époque de Michel Alliot-Marie. Et j'étais hyper impressionnée quand j'étais petite. Je l'avais vu à la télévision, je me souviens, je l'avais vu passer en revue les troupes. Et j'avais entendu les commentateurs dire, c'est la première femme à passer en revue les troupes militaires françaises. Et en fait, ça m'avait vachement marquée. Et je pense que j'avais un peu cette envie d'aller dans des territoires où les femmes vont pas trop, d'habitude, et de pouvoir leur montrer... entre guillemets, ou montrer à tous que on sait faire aussi bien que les hommes. Et je pense que c'est un truc qui a ensuite sous-tendu beaucoup de choses dans ma vie d'après. Voilà.
Et le fait que ta maman travaillait, ta maman, tu l'as jamais vue travailler du coup?
Alors non, elle a travaillé avant d'élever ses enfants et ensuite elle s'occupait de nous, puis c'était compliqué pour elle parce qu'en fait, comme on déménageait tous les deux, trois ans, c'était très dur d'avoir une carrière.
Tu m'étonnes.
Voilà.
Et puis avec quatre enfants, il faut aussi gérer.
Voilà. Exactement. Et donc c'était un boulot à plein temps pour elle, mais c'est toujours évidemment quand on a une maman au foyer, on se pose beaucoup de questions en tant que fille. Ça c'est quelque chose que beaucoup d'hommes comprennent pas, je trouve, dans le monde professionnel aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'en tant que fille, on a toujours une mère enfin il y a toujours les deux histoires quoi. Soit mère au foyer, et du coup c'est un peu une question de comment on fait pour concilier, etc. Mais souvent les filles de maman qui sont aussi méga investies dans leur carrière, elles ont aussi leur propre challenge, leur propre questionnement. Je trouve qu'il y a pas de situation très simple, en fait. Ça reste un défi pour les femmes aujourd'hui et ça l'est d'autant plus quand t'as été petite, tu t'as pas forcément eu cet exemple-là.
Toi, t'as été maman aujourd'hui?
Non.
Non.
Non. Je suis pas maman et je pense que c'est quelque chose de magnifique. C'est peut-être quelque chose qui m'arrivera plus tard. Mais aujourd'hui, en tout cas, non. Je suis pas et je me concentre aujourd'hui à 100% sur ma boîte.
Sur un autre bébé.
Exactement.
Ouais. Parce que ça, c'est un vrai, moi, je sais que quand je suis devenue maman, bon, c'était il y a 10 ans maintenant, ça a été un vrai sujet, justement, de se dire, OK, en fait, qu'est-ce que je veux être par rapport à ce que ma mère a fait pour nous, en fait? Et tu vois, moi, à l'époque, je travaillais beaucoup et maman, elle travaillait avec papa et du coup, elle avait un rythme vraiment en mode, elle venait, on n'allait pas à la cantine, elle venait nous chercher tous les soirs. Et quand tu regardes les horaires de l'école, tu te dis, mais, enfin, si tu veux vraiment avoir un job dans lequel tu t'investis énormément, c'est pas possible, quoi. Et cette espèce de tiraillement de te dire, j'ai envie d'être une aussi bonne maman que maman, mais d'un autre côté, j'ai envie d'avoir mon job à moi où ça me plaît. C'est un vrai,
C'est la raison pour laquelle moi j'ai pas encore franchi le pas aujourd'hui. Après, j'ai ce luxe entre guillemets d'être encore jeune et d'avoir quelques années pour choisir le bon moment. Moi je trouve que c'est une équation extrêmement difficile. J'ai énormément d'admiration pour les quelques très rares femmes que j'ai vues monter des boîtes dans la tech. En tout cas à l'époque où j'étais investisseur, je me rappelle notamment de la CEO de AB Testi qui avait
été enceinte. C'est exactement elle qui je pensais, Alice Sagazan.
Alice, elle m'a dit quelque chose un jour qui m'a vraiment marquée. En fait, on a parlé de ce sujet-là et elle a eu cette phrase. Elle m'a dit, tu sais, en fait, Il n'y a pas de secret, faut pas se marier avec un bad boy. Toutes mes copines qui se sont mariées avec des bad boys, en fait aujourd'hui elles galèrent parce que bah ils sont pas là, ils assurent pas et en fait choisis un mec, choisis un good guy quoi. Et je trouve que c'est hyper vrai. Je pense que la carrière, enfin on dit souvent effectivement que je pense que c'est vrai dans les deux cas. Derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme qui assure, et derrière chaque femme qui réussit, il y a aussi quand même un homme qui assure normalement. Et je pense qu'il faut peut-être que c'est difficile d'avoir les deux carrières à 150% en même temps. Mais en tout cas, moi je suis convaincue qu'aujourd'hui le bonheur des femmes et l'épanouissement des femmes, ça passe par le fait d'avoir un conjoint. Qui a de l'ambition, mais qui sait aussi à des moments la mettre de côté pour que sa femme puisse développer la sienne.
Complètement. Ouais. Voilà. Mais ça, je partage complètement, et le fait, tu vois, mon mari il a sa boîte depuis 15 ans presque maintenant, et à un moment quand je suis devenue VP marketing monde de boîte. Bah en fait, il m'a dit, c'est ton moment à toi maintenant. Et du coup, c'est lui qui a pris le relais, alors sur plein de trucs à la maison, sur les enfants et tout. Et on s'est vraiment dit en mode, on s'est regardé dans les yeux en mode, ça y est, en fait, bon, bah, j'ai développé ma boîte, c'est toi qui gérais tout maintenant, c'est ton moment à toi. Bon, après, j'ai fait mon burn-out et du coup, maintenant, c'est je lui dis, ouais, vas-y. Mais du coup, moi, je veux développer ma boîte, mais sans être en mode, comme à l'époque, en mode, en tout cas trop par rapport à moi. Mais c'est hyper important de se mettre en effet, de discuter en couple et se dire ok, et d'avoir en effet un homme qui n'a pas peur aussi que sa femme lui fasse de l'ombre, parce que ça arrive aussi.
Exactement. Ouais, non, mais t'as complètement raison, et c'est clair, combien de fois j'ai entendu ça à propos même parfois d'autres femmes qui évoluaient dans mon milieu professionnel, où j'entendais bah elle doit faire peur au mec, etc. Moi je me souviens même une fois de mon père me dire mais toi MH tu bosses comme un mec. Et j'ai envie de dire, je lui ai dit, mais en fait, donc en gros, j'ai de l'ambition, je suis à fond dans ce que je fais. Et donc ça, forcément, c'est une façon de bosser qui est masculine. Et il le disait en plus, pas du tout méchamment, il n'y avait aucune arrière-pensée derrière ça. Mais en fait, c'est le reflet de stéréotypes qui sont quand même ancrés. Et puis, c'est une autre génération. Hein, aujourd'hui, elle a 70 ans, donc voilà. Mais je pense qu'il y a encore des choses qui sont un peu enquistées là-dedans. Ouais. Et c'est à chaque couple de trouver son équilibre, et pour ça bah moi j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari qui me soutient beaucoup et qui est aussi entrepreneur, donc du coup vous comprenez,
il est entrepreneur dans quel univers ton mari?
Alors dans la tech, il a monté une boîte qui crée des applis pour les services financiers, donc voilà, et c'est vrai qu'on se parle énormément parce que moi je faisais beaucoup de fintech avant, et j'ai un peu l'impression qu'on est l'un pour l'autre un shadow associé entre guillemets, ce qui est génial parce qu'en fait quand j'ai une question, parfois ça m'arrive de l'appeler au milieu de la journée sur un truc dur que j'ai besoin de craquer, et lui fait la même chose, et c'est incroyablement important d'avoir cet échange là et de sentir que l'autre est là et qui comprend l'intensité qu'on met dans ce qu'on fait et voilà au quotidien. Ouais. Quoi.
Alors, avant de parler de ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi, le choix des études?
Alors, vraiment, ça fait partie. C'est comme l'histoire du ministre de la Défense qui est complètement absurde. C'est en fait, je sais pas, je me souviens très bien en quatrième avoir décidé que, en gros, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien tout ce qui tournait autour de l'économie, j'aimais bien, on parlait beaucoup de politique à la maison. Il y a beaucoup de débats, etc., beaucoup d'idées entre mes parents et tout. Et donc, en quatrième, j'ai décidé que j'allais faire Sciences Po, enfin que j'allais tenter Sciences Po déjà. Et donc après, j'ai un peu foncé là-dedans, et puis j'ai eu la chance de pouvoir passer le concours, et je me sens très bien quand je suis arrivée à Sciences Po de me dire bon. Et alors du coup, ça va être quoi le programme ? Parce qu'en fait, j'en sais rien. donc voilà. Donc ça s'est fait. Très naturellement parce que c'était une école généraliste et qu'il y avait plein de choses que j'aimais et ça permettait de ne pas me fermer des portes, et puis par ailleurs j'étais pas très bonne en maths et que je me voyais pas du tout faire une prépa, et voilà, c'était pas pour moi.
Et comment t'as connu Sciences Po, parce que tout le monde connaît pas Sciences Po en quatrième?
Bah c'est une bonne question en fait. Je pense que j'avais dû en discuter avec mes parents Mais personne ne l'avait fait dans ma famille. Enfin, moi, mes parents, c'était pas, voilà, c'était pas des fans ni l'un ni l'autre, je pense, des études, même s'ils nous ont beaucoup poussé leurs enfants à en faire. Mais c'est venu un peu comme ça, et voilà, je pense que le fond de débat politique, on avait toujours un fond sonore à la maison, on écoutait France Inter tout le temps, et enfin voilà, moi je me souviens tous les soirs téléphone sonne, etc. Et mine de rien, ce truc-là a fait grandir, je pense, des questions, un intérêt pour la chose publique. Que finalement en France aujourd'hui, il y a un petit peu qu'une seule école qui permet de, en tout cas quand tu sors du bac, cette école-là, elle te donne cette possibilité de vraiment explorer cette piste jusqu'au bout et de savoir si c'est fait pour toi ou pas d'aller travailler dans le public.
Ouais. Et du coup, ton entourage, comment il a réagi quand t'as intégré Sciences Po?
Je pense que mes parents étaient fiers. Et c'était un moment important pour moi de les voir fiers. C'est évidemment aussi pour eux que j'avais envie de les rendre fiers en réussissant. Je pense que c'est quelque chose que tous les enfants ressentent et peut-être que ça nous suit aussi plus tardivement les années suivantes. Voilà. À chaque fois que j'ai eu une promotion dans mes jobs, j'invitais mes parents au restaurant.
Ah, génial.
C'est une façon pour moi de leur dire que je sais ce que je leur dois dans l'éducation qu'ils m'ont donnée.
Ouais. Et du coup, après à Sciences Po, s'est posé la question de quel job t'allais faire. Comment ça s'est passé?
Ouais, et ben en fait très vite, je me suis rendu compte que les affaires publiques c'était pas pour moi, pas parce que le sujet était pas intéressant, mais j'avais toujours un peu eu la bosse du commerce quand j'étais petite. Enfin, ça me fascinait toujours un peu. J'avais un grand-père qui avait été entrepreneur, et donc cette histoire familiale là, elle avait aussi pas mal compté. Et je pensais, enfin, d'un autre côté, je me disais, bah voilà, l'administration, en tout cas, ça me semblait, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de politique déjà à mon époque, quand j'avais 18 ans et que je suis entrée à Sciences Po, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui étaient déjà dans les circuits ultra, dans les bons syndicats étudiants, dans les machins, dans les trucs. Et moi, en fait, je suis très, très mauvaise pour, pour cacher ce que je pense grosso modo, et donc je pense que j'aurais fait une piètre politique, enfin voilà, on verra si un jour le virus revient, mais aujourd'hui, enfin assez vite, je me suis décidée à partir plutôt dans la branche économie et finance, qui est en fait la branche un peu business de Sciences Po. Et naturellement, ça m'a amené à faire des stages dans des domaines plutôt business. J'ai un petit peu touché à tout et puis j'ai décidé de partir dans le conseil. Voilà, c'était mon premier step.
Donc, le premier step, conseil, c'était chez Bain?
Exactement, ouais. Conseil chez Bain, cabinet américain, mais au bureau français avec... Une culture complètement anglo-saxonne et des missions hyper intéressantes, mais plutôt, je dirais, c'est plutôt un endroit où on développe, en tout cas moi je trouve, des soft skills, donc des capacités de d'expression, d'écoute, de synthèse, etc. Mais je savais très bien que c'était pas du tout ce que je voulais faire à terme.
Pourquoi? Comment t'as senti que c'était pas ce que tu voulais faire?
Alors moi déjà j'ai un petit problème avec la hiérarchie en général, et c'est des endroits extrêmement hiérarchiques, donc il y a une quand même un truc qui est une chain of command extrêmement claire, et je trouvais qu'il y avait pas forcément d'ouverture au challenge du bas de la pyramide vers le haut. Et puis par ailleurs, moi ça me démangeait aussi un petit peu de faire des choses un peu entre guillemets avec mes mains, c'était génial de faire des slides et d'être dans la posture du conseil est à la fois difficile parce qu'on a des clients qui sont extrêmement exigeants et donc c'est un métier avec beaucoup de challenges, mais d'un autre côté c'est aussi très confort parce que le vendredi soir on arrête sa semaine et puis on réfléchit pas à ce qui se passe chez le client pendant le week-end, ça se passe chez le client. Et ça, c'est une petite bulle dorée quand même, je trouve. En plus, avec beaucoup de gens hyper smart qui venaient d'école bien plus brillants que moi. Enfin, il y avait que des X et des... Enfin, voilà. Nous, on était complètement outsiders. Il y avait trois Sciences Po qui se baladaient qui savait pas faire de modèle Excel et qui était vraiment, quand on arrivait, on n'avait pas forcément les mêmes skills que les autres.
Ça a été un challenge du coup de te faire embaucher, j'imagine, parce que justement, tu n'avais pas le profil des...
Ah ouais, ah bah, déjà, c'était hyper drôle parce que je me souviens, Bain, c'est le seul cabinet que j'ai tenté. Donc, il y avait Mac et BCG aussi, mais je savais que chez Mac et BCG, il y avait des tests de maths avant. Et moi, je m'étais dit direct, ouais, c'est mort, je ne vais jamais les avoir. Donc, en fait, j'ai tenté Bain et je me souviens, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un en entretien avec qui bah, ça avait très bien fité. Et puis voilà, franchement mon entretien se passe bien et à un moment vient justement le moment du test un peu plus analytique et je me souviens qu'à un moment donné je dois faire 1,6 x 2 et je commence à prendre mon crayon et le mec me regarde et me dit vous allez pas poser l'opération quand même et en fait j'étais tellement sur le coup, en fait je savais tellement que c'était mon talon d'Achille le calcul mental que je m'étais dit je vais la faire safe, 1,6 x 2 je prends mon crayon et mon papier quoi. Et en fait bon au final ça va mais c'était je pense que c'était le stress sur le coup et puis après on a été un peu chambré en arrivant, on était toujours un peu chambré les Sciences Po mais ça fait partie du jeu et c'est vrai en plus parce qu'on vient d'une école qui et c'est une chance aussi qui nous prépare finalement pas tellement à la vie en entreprise. Mais c'est une chance parce que pendant 5 ans, on peut explorer des territoires incroyables en termes académiques. Et moi, j'ai pris des cours de droit de la guerre, de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et je suis quand même très reconnaissante à cette école, mine de rien, de nous avoir formés. On est peut-être pas très bon en maths, mais en tout cas, on a aussi l'esprit ouvert.
Ouais, vous avez des compétences que les autres n'ont pas, et en effet une ouverture d'esprit. Et justement, le fait de pas avoir été préformaté fait que vous, du coup, ça permet d'appréhender les situations de façon différente aussi.
Bah, en tout cas, enfin, il y a toujours une part de formatage, mais ce qui est bien, en tout cas, dans cette école, c'est aussi qu'ils font un vrai effort pour la diversité. Et donc, il y a des gens de milieux sociaux, il y a plein d'enfants d'énarques et tout. Enfin, moi, je savais pas du tout qu'il y avait des dynasties comme ça, d'énarques et tout. Enfin, moi, dans ma famille, personne déjà n'avait fait Sciences Po, donc encore moins l'ENA. Mais du coup, il y a aussi des gens qui vraiment, je trouve que c'est une école où la méritocratie fonctionne quand même pas mal. Il y a eu un vrai effort avec plein d'initiatives qui ont été lancées, les conventions ZEP notamment, etc., qui fait que on se retrouve dans le bain avec des gens qui sont quand même très différents de nous. Et c'est très bien, c'est essentiel.
On parlait juste avant là de brancher le micro de Claire Desmarais-Poirier, donc qui a été soutenue par Arnaud Gideredon, mon épisode de la semaine dernière. Et Claire Desmarais-Poirier, elle a fait Sciences Po, sachant que Claire, elle vient d'un milieu ouvrier très simple. Ses parents étaient syndicalistes dans leur usine. Enfin, donc un univers. Enfin, moi quand je l'ai interviewée, tu vois, elle me racontait que avec son mari. Ils ont été dans des squats. Enfin, ils ont vécu dans un squat. Et tu te dis, c'est très, 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 très loin de mon univers à moi et de beaucoup de personnes que j'ai interviewées. Mais elle s'était dit, moi, j'ai envie de faire Sciences Po. Elle a découvert cette école. Mais personne, à la base, personne, et même sa famille, elle avait dit, mais c'est pas pour nous, c'est...
Mais en fait, je pense que ça fait partie de... Il y a des endroits comme ça dans la vie où on a besoin de... Ça vaut pour les carrières, où on a besoin de plus ou moins de capital social pour réussir. Je trouve par exemple que le conseil en strat, je me suis toujours dit moi que c'était un endroit où il fallait pas mal de capital social parce que ça demande beaucoup d'aisance à l'oral et beaucoup d'aisance à l'écrit également. Donc souvent des gens qui ont beaucoup lu, etc. Et qui sont à l'aise avec l'idée de se retrouver très vite avec des gens en face de gens qui ont fait les grosses écoles, etc. Et je trouve que justement, ce qui est bien dans d'autres domaines, peut-être la finance aussi, d'ailleurs, la finance un peu comme ça, mais la tech, par exemple, c'est justement, il y a beaucoup moins besoin de ça. Et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est de rencontrer des entrepreneurs qui ont tous les profils. Effectivement, il y en a plein qui ont Félix, mais il y en a aussi plein qui ont juste le bac. Et c'est très bien, c'est essentiel et heureusement qu'il n'y a pas qu'une seule façon de réussir et qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être brillant en fait.
Il y a plein de formes d'intelligence.
Exactement. Et l'intelligence scolaire c'est une forme, mais c'est pas 100% d'intelligence quoi.
Mon papa, il me racontait ça quand j'étais petite. Alors moi, j'étais pas très bonne à l'école, mais bon, j'étais dans un collège lycée à Neuilly-sur-Seine, donc le pas très bonne et tout, et assez relatif en fait. Finalement, on te fait comprendre que t'es pas très bonne, mais si tu regardes par rapport à la moyenne nationale, en fait, tu te dis bah finalement, je suis quand même plutôt pas mal. Et papa me disait toujours, tu sais, il y a l'intelligence scolaire et il y a l'intelligence émotionnelle, artistique et compagnie. Et il me prenait toujours cet exemple en me disant, tu sais, le meilleur de ma classe quand il était petit, bah aujourd'hui il fait tel métier et finalement il n'est pas spécialement heureux, et c'est pas parce que t'es pas la meilleure de ta classe qu'en fait tu pourras pas faire des grandes choses dans ta vie.
Mais c'est clair, mais c'est tellement essentiel d'entendre ça, je pense, quand on est enfant. Et peut-être que le système scolaire français est peut-être moins bien câblé que certains autres systèmes scolaires étrangers là-dessus. On a beaucoup tendance à mettre de l'emphase sur les notes et sur le fait d'être peut-être dans le top 3, etc., ou d'avoir plus de X de moyenne, alors qu'en fait, il y a plein de façons, il y a plein de formes d'intelligence. Et surtout, je pense que même au-delà de l'intelligence, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on apporte chacun d'entre nous au bien commun. Et c'est pas une question d'intelligence. C'est pas du tout une question d'intelligence. On a besoin, voilà. C'est quelle est ta contribution à la société. Et je connais plein de gens brillants chez qui elle est pas forcément énorme. Et d'un autre côté, plein de gens. Qui se définirait pas comme brillante et qui elle est absolument essentielle.
Ouais, en fait, tu vois, pour moi, c'est un sujet qui résonne énormément parce que au fur et à mesure des interviews que j'ai fait dans le podcast, au bout de 6 mois à peu près d'interview, je me suis rendu compte que tout le monde me disait, je suis à ma place, j'ai l'alignement des planètes et tout. Et je me suis dit, mais ça a l'air trop bien ça. Comment on fait et tout. Et je me suis rendu compte que ça s'appelait la mission de vie, la raison d'être, l'ikigai et compagnie. Et que ce qui est essentiel, c'est en effet quand t'es vraiment à ta place, c'est de faire appel à tes talents, à tes valeurs, et puis aussi d'apporter quelque chose aux autres, au monde, et sans se mettre une pression surdimensionnée en mode on va tous sauver les enfants de malnutrition ou quoi. Mais chacun avec à son échelle, sur un sujet, on va faire en effet du bien à la planète, aux autres en fait.
Oui, et il y a une sorte d'éthique, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, il y a une sorte d'éthique et d'exigence en fait, je trouve presque morale, derrière l'idée de dire voilà, j'ai des talents et tout le monde a des talents, et donc maintenant qu'est-ce que j'en fais. Et il y a une très très belle parabole dans la Bible qui s'appelle d'ailleurs la parabole des talents, qui est dur et qui est pas facile quand on la lit comme ça, mais qui est exactement cette idée-là de on a placé en toi des capacités, et en fait c'est à toi de ne pas avoir peur de tes propres talents, d'aller les chercher, d'aller les déterrer, de les faire fructifier et de les faire rayonner. Et je pense que c'est la quête d'une vie, je pense qu'on n'arrive jamais au bout, mais que c'est le chemin qui compte, quoi.
Ah, c'est clair. On est bien d'accord. Et du coup, alors, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Bain?
Alors, avant de rentrer chez Bain, j'avais fait un stage chez eux, et avant de reprendre le job en CDI, j'étais passée très rapidement en start-up. J'avais fait quelques mois chez Rocket Internet en Égypte, qui ont été hyper structurants, je pense, pour la suite. J'ai adoré le côté très opérationnel de ce que je faisais là-bas, hyper concret, et ça allait très très vite. C'était les débuts en fait un peu de l'écosystème tech, mais sur le continent africain. Ouais, c'était un stage. J'ai fait 3-4 mois là-bas au Caire, et en fait j'ai su assez vite que c'était ça que je voulais faire à terme, et que du coup le conseil c'était 3 ans pour me rassurer un petit peu, marquer le truc sur mon CV et me dire ok, c'est bon, j'ai une bonne base bien solide et un bon effet de signal sur mon CV. Mais je savais très bien que je voulais pas faire ça à terme.
Et pourquoi le Caire? Parce que c'est quand même, je connais une personne qui a fait son stage au Caire dans tout mon entourage, c'est mon mari. Et à chaque fois, il a la grande fierté de se dire, j'ai fait mon stage au Caire, alors que tout le monde était à Londres, à New York, à...
Ouais, c'est clair. Eh ben, écoute, ce qui est assez drôle, c'est que c'était pas du tout prévu. Je devais partir 6 mois en Thaïlande, à l'origine, donc sur une autre boîte qui s'appelait Lazada, une autre boîte du groupe Rocket. Et en fait, Bain m'a demandé de revenir plus tôt et du coup, j'avais plus que 3-4 mois. Et en fait, en Thaïlande, on m'a dit non, c'est pas possible parce que tu seras pas là assez longtemps. Mais en revanche, il paraît qu'au Caire, ils ont des besoins. Et donc, 2 semaines à la date de mon départ, j'ai dit à mes parents, en fait, changement de plan, je vais au Caire. Et en fait, c'était 2012-2013, donc c'était quand même aussi un moment qui était complexe en Égypte. C'était pas facile. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai trouvé cette ville incroyable. Certains quartiers magnifiques, c'est une ville qui grouille, il y a des dizaines de millions d'habitants, c'est une ville gigantesque. En fait, on n'a pas du tout l'habitude de cette démesure-là. Et en même temps, bosser du jour au lendemain dans un entrepôt avec des Égyptiens, dans une culture complètement différente, etc. Ça m'a appris beaucoup et ouais, je suis très reconnaissante à cette boîte-là de m'avoir permis très très tôt de me lancer avec une petite équipe et des petites responsabilités à ma mesure et de me dire bon bah voilà, ta carte blanche maintenant, tu te démerdes quoi.
Génial. Et le fait d'avoir souvent voyagé, bon pour le coup en l'occurrence de ville en France, j'imagine que ça a dû t'aider à avoir un peu moins peur de se dire allez, je reviens dans un univers que je ne connais pas.
Ouais, mais moi en fait, j'adore bouger, découvrir mais c'est vrai que là ça fait 15 ans que je suis à Paris, je commence à en avoir un peu marre. 13 ans et le fait de changer d'environnement, de rencontrer des nouvelles personnes, c'est toujours une source je suis toujours hyper contente, hyper excitée. Donc non, c'était top et je pense que toutes les nouvelles expériences comme ça et particulièrement quand tout change à la fois, c'est-à-dire c'est non seulement la boîte mais la culture, le pays dans lequel t'es, évidemment des rapports différents à l'autre, parce que quand t'es une femme dans ces pays, c'est pas tout à fait la même chose que quand Clairement. T'es en France. Mmh. Et ça, je pense que c'est le truc sur lequel j'ai le plus appris. D'ailleurs, en bossant à l'étranger, parce que j'ai eu la chance de bosser en Égypte, mais j'ai aussi pas mal bossé, par exemple, dans les pays nordiques, en Espagne, en tout petit peu en Israël, etc. Et en fait, à chaque fois, je trouve que le sujet sur lequel il y a une variété de situations infinies, c'est la relation homme-femme dans le milieu professionnel. Et ça change, mais du tout, tout, tout. Donc, en Égypte, je me souviens d'avoir dû recruter mon successeur après moi et d'avoir fait passer des entretiens. Et je me souviens notamment d'un mec qui voulait pas serrer la main aux femmes. Donc, c'est compliqué quoi. Quand t'arrives et que tu vois le candidat et qu'il refuse de te serrer la main, c'est sûr que tu te poses quand même pas mal de questions quoi.
Ou qu'ils ne veulent pas se regarder dans les yeux aussi.
Ouais, mais c'était très très rare honnêtement. Ouais. Et moi j'ai eu surtout, j'ai eu des relations. J'avais que des hommes pour le coup. J'avais 3 hommes dans mon équipe et ça s'est hyper bien passé vraiment, mais absolument aucun problème. C'était aussi une bulle, je pense, à l'intérieur du Caire. Et quand on sortait dans la rue, on sentait bien que c'était pas forcément partout le même délire, quoi.
T'as réagi comment, du coup, quand il a pas voulu te serrer la main?
Eh ben, il a pas passé le premier tour. Voilà. Non, c'est ça, c'est. Mais c'est sûr que c'était très, très désarçonnant. Ça m'était jamais arrivé. Je respecte ces traditions-là aussi parce que c'est là-bas et c'est chez eux et c'est leur façon de faire et voilà. Mais après, je pense que ça aurait pas du tout été la même chose si ça m'était arrivé en France, parce qu'aujourd'hui on sait qu'en France, il y a quand même des endroits où ça arrive dans certains milieux professionnels. Et là, pour le coup, je pense que c'est un no-go absolu, quoi. C'est une limite à pas franchir.
Et donc, quand tu as quitté Bain, c'est là où tu as rejoint Partech, donc qui est un fonds d'investissement dédié à la tech. Ouais. Pareil, là, un univers du coup hyper masculin.
Ouais.
Des chiffres.
Ouais. Ouais, c'est clair. Il y avait que des hommes quasiment dans l'équipe. Et je crois qu'à ce niveau de seniorité, j'étais la première femme recrutée, il me semble, en CDI. Ouais. Maintenant, il y en a un peu plus, donc c'est super. Non, c'était chiffres et pas chiffres en même temps, parce que le VC, c'est donc moi j'étais vraiment concentrée sur l'investissement, ce qu'on appelle très early stage. Donc le venture, par abus de langage, c'est un peu le financement des entreprises depuis le tout début, ce qu'on appelle l'amorçage, le seed, jusqu'à des tours qui font aujourd'hui 20, 50, 100 millions, etc. Mais en tout cas toujours dans des boîtes qui sont encore, on va dire, dans les prémices de leur histoire et qui croissent très très vite. Et finalement, dans cet environnement-là, les chiffres ne font pas tout parce que on reste dans des histoires qui sont récentes et où en fait c'est essentiellement des histoires humaines encore à ce stade et les cofondateurs ou le fondateur fait à peu près toute l'histoire de la boîte. Donc à la fois il y a des chiffres parce qu'il faut être hyper au clair sur les business models, mais je pense que pas être bon. En fait, paradoxalement, je suis assez analytique en étant très mauvaise en calcul mental. j'aime beaucoup les chiffres, mais je suis juste pas capable. Enfin, c'est Excel qui les fait pour moi, mais voilà. Donc faut savoir regarder les chiffres évidemment, mais il n'y a pas une seule façon. Comme on se dit, il n'y a pas une seule façon d'entreprendre. Je pense qu'il y a plein de façons différentes d'être VC. C'est ce que j'ai appris chez Partech en voyant certains de mes collègues qui, franchement. C'est vraiment une équipe de gens très très brillants et certains vont avoir un style justement très chiffre, très financier, peut-être plus le fond de grosse. D'autres vont être beaucoup plus intuitifs. Certains vont être très bons sur justement sur l'empathie, sur sentir l'entrepreneur en face et sentir si c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout. D'autres vont être beaucoup moins bons là-dessus, mais ils vont être très bons, je sais pas moi, à réfléchir à la stratégie d'exit de la boîte à long terme, ou d'autres très bons sur l'opérationnel. Donc finalement, il y a plein de façons d'être un bon investisseur, tout comme il y a plein de façons d'être un bon entrepreneur.
Ouais. Et là, qu'est-ce qui t'a attiré du coup au fait d'aller chez Partech plutôt que la startup où tu disais finalement que tu te sentais bien, ouais. Parce que là t'es encore de l'autre côté.
Complètement.
Ouais.
Bah, j'ai hésité entre les deux en quittant Bain. J'ai hésité entre monter une boîte et finalement rejoindre un fonds. Et j'ai choisi de rejoindre un fonds en me disant que j'allais pouvoir pendant quelques années profiter en fait de cette proximité avec les entrepreneurs sans en être une moi-même. Voir passer énormément de business, donc de réfléchir en fait vraiment d'exercer son esprit à regarder des marchés, à regarder des business models, à regarder des produits, des innovations, et puis ça me donnerait des idées pour la suite. Donc c'était un peu j'avais dans l'idée de toute façon à un moment donné de partir.
Parce que du coup l'entrepreneuriat te titillait, mais t'avais pas forcément de projet en tête.
J'ai eu un projet à la fin de Bain, donc l'histoire ne dira, on ne saura jamais si ça aurait été une bonne idée ou pas, avec quelqu'un qui était top et qui aurait pu être un co-founder génial. Et finalement, j'ai choisi de partir du coup dans le VC. Donc j'avais à la fois plein d'idées et pas d'idées, c'est-à-dire que j'explorais plein de trucs en parallèle de mon job. Évidemment, je notais toujours dans un coin de ma tête, ah tiens, ça c'est intéressant, tiens, ça c'est des marchés cool, etc. Mais comme je suis un peu curieuse de tout, ce qui est aussi un défaut, du coup, tout m'intéressait. Mais le challenge, c'est de s'y intéresser dans le long terme et de justement pas avoir envie de faire 1000 trucs à la fois et de se fixer sur une idée.
Et on peut savoir ce que c'était cette idée de boîte que tu as.
Ouais, carrément. Et ben à l'époque, c'était il y a longtemps déjà, c'était de faire un copycat de ces boîtes aux États-Unis, tu sais, qui avaient lancé des matelas ce que fait Teddy Bear aujourd'hui.
Ouais, en fait. Teddy Bear, voilà. Matelas.
Exactement, exactement. Donc c'était vraiment c'était du pur e-commerce. C'est ce à quoi j'avais un tout petit peu touché de loin chez Rocket et je m'étais dit ça c'est des marchés assez intéressants. Il y avait une bonne thèse de marché derrière, mais je me suis dit franchement les matelas, est-ce que ça va me faire kiffer de bosser sur ce produit-là pendant des années, parce qu'il faut quand même se dire que c'est des années pour lesquelles tu pars et je me suis dit je suis pas sûre.
Je dors dessus, mais pas jour et nuit.
Voilà, exactement.
Et comment c'est arrivé, donc, du coup, cette idée de pastille
Ouais. Bah écoute, déjà je suis partie de mon job avant que ça arrive, parce que j'avais fait un peu plus de 3 ans chez Partech et franchement j'ai adoré ce métier, j'ai adoré l'équipe et voilà je suis encore très proche de certains mentors là-bas, mais j'avais en tête de toute façon de monter une boîte et ce que je voyais c'était que j'étais très mauvaise pour vraiment avancer en fait concrètement sur un projet en parallèle. Ouais, je trouve ça trop dur en fait. Moi j'admire beaucoup les gens qui le font, mais franchement réfléchir le soir et le week-end alors que t'as déjà passé une journée normalement où t'es à 100% sur ton job et où t'es déjà un peu épuisé, je trouvais ça dur en fait. Et puis j'arrivais aussi à un moment chez Partech où ça commençait à devenir très très confortable et je me suis dit bah en fait si je mets le doigt dans l'engrenage, je pense que je vais jamais partir, donc je vais me mettre au pied du mur, je vais essayer d'avoir une rupture conventionnelle et puis me dire voilà je me donne 6 mois pour trouver une idée, trouver un associé, et puis si dans 6 mois je sais pas, j'ai pas d'idée, ou je me dis bah en fait l'entrepreneuriat c'est pas du tout pour moi, j'arrêterai et puis je reprendrai un job quoi. Voilà.
Et donc, comment je suis partie, comment ton entourage il a réagi, parce que c'est quand même hyper cool de faire ça.
Alors en fait déjà c'est donc Philippe Colombel, le boss du fonds dans lequel je travaillais, à qui je l'avais annoncé, qui m'a dit, et j'avais un peu peur de lui annoncer parce qu'on bossait beaucoup en binôme et puis ça fonctionnait bien et on s'entendait hyper bien et tout ça, et j'avais un peu l'impression de le lâcher entre guillemets, et donc je lui ai expliqué que j'avais envie de partir pour tenter ça, et il m'a dit écoute Mach, je pense que t'as raison. Si t'as envie de le faire, il faut que tu le fasses. Et puis, tu me diras comment je peux t'aider. Mais t'as raison, à ta place, je ferai la même chose. Et donc, déjà, ça m'a complètement libérée parce que moi, j'étais stressée, en fait, de me dire, bon, ok, ils m'ont formé, ils ont investi sur moi, etc. Et donc là, je vais les planter. C'est pas top. Et en fait, il l'a pas du tout vécu comme ça. Et je pense que c'est ça les vrais mentors en fait, et j'en ai quelques-uns comme ça dans ma carrière qui m'ont toujours vachement soutenue à ces moments-là, et qu'ils soient professionnels ou pas, j'ai aussi des mentors qui sont pas du tout pros mais à qui je demande beaucoup de conseils sur des sujets pros, et donc il y a eu ça, j'ai eu aussi un prêtre avec qui je m'entends très bien et qui est aussi quelqu'un d'important pour moi, qui m'a dit non, mais là, MH, ta vie, elle est trop tranquille, elle est trop plan-plan. Vas-y, tu veux pas foutre un peu le bordel, pose ta dème et vas-y, voilà, t'as envie de le faire, fais-le.
T'avais quel âge?
J'avais 29 ans. J'avais 29 ans. Et en fait, 28. Au moment où j'ai pris la décision et je l'ai annoncé, j'avais 28 ans. Et en fait, j'ai quand même fait une petite retraite à un moment. Donc, je suis partie pendant 3-4 jours. Faire un truc qui s'appelle la retraite spirituelle de Saint-Ignace, qui est assez dingue, qui est une sorte d'exercice d'introspection qui a été inventé par ce moine au Moyen-Âge et qui m'a vachement aidée à mettre sur le papier en gros les conditions de mon bonheur. C'est vraiment une retraite où tu te poses la question de qu'est-ce qui me rend heureux, quel est mon désir et qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, quoi. Et en fait, à ce moment-là, c'est devenu assez clair que j'avais envie de tenter l'aventure entrepreneuriale et j'ai posé ma dème en rentrant de cette retraite-là.
Donc, c'est fou, hein.
Voilà. Ouais. Bah ça a beaucoup compté, mais je continue à réfléchir comme ça de temps en temps. J'ai besoin d'aller faire un break et de m'abstraire. En tout cas, moi, je suis très mauvaise pour faire des choix structurants dans mon quotidien. J'ai besoin de m'abstraire, de prendre un petit temps et puis de couper les téléphones, quoi.
Ouais, vraiment te recentrer avec toi-même et aller puiser. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le fait d'arriver à monter une boîte en parallèle de... Même si on en parlait avec Charlotte Ducharme qui a monté Parents Cool Make Kids Happy, ou Cool Parents.
Cool Parents Make Happy
Voilà, j'inverse toujours. Et en fait, Charlotte, elle disait qu'elle avait un super job dans une super boîte et tout, qu'elle a pris un autre job qui était sur le papier beaucoup moins successful. Mais qui lui permettait justement d'avoir moins de charge mentale pour pouvoir justement développer son projet en parallèle. Et c'est vrai que tu vois, il y a des gens qui disent ah mais en gros moi j'arrive pas à monter ma boîte en parallèle. T'as des gens qui vont être capables. Enfin, c'est vraiment à chacun de se dire par rapport bon bah il y a le contexte global et puis de se dire de quoi toi t'es capable. Moi je sais que pareil, je savais que je voulais monter ma boîte un jour, mais j'avais tellement de charge mentale dans la boîte où j'étais avant que
que très dur de s'en détacher.
Ouais, c'était impossible. Enfin, bon, d'ailleurs, c'est pour ça que mon corps, il m'a fait stop parce qu'en fait, il y a un moment, si tu l'écoutes pas, donc tu pars en retraite, tu démissionnes. Démissionnes. Donc, tu fais une rupture co, donc, du coup, t'as le droit au chômage.
Exactement. Ça, c'est important. Et merci la France. Mille fois, quand même. On est un pays incroyable pour entreprendre. Il faut le dire, le redire. Et j'ai entendu une fois cette expression que Pôle emploi était le premier vice-site de France. Et c'est totalement vrai.
Et là, pour toi, tu disais, donc, du coup, trouver un associé. Pour toi, c'était vraiment quelque chose d'important d'être à deux?
Ouais, moi je m'envisageais pas entreprendre seule. Donc du coup l'histoire finalement fait que ça s'est passé autrement, mais parce que je suis quelqu'un d'assez extraverti et que dans mon profil BTI par exemple, et que j'ai vraiment besoin d'échanger avec les gens pour avancer sur mon travail. Et que c'est ça qui me rend heureuse en fait, c'est de faire du ping-pong tout le temps avec les autres quoi. Et donc moi je me suis mise en quête, j'avais réfléchi à pas mal de personnes avec qui je pouvais lancer une boîte. Et puis il y avait quelqu'un en particulier qui avait un super profil et que je connaissais un petit peu, avec qui j'ai bossé sur cette idée sur laquelle je suis aujourd'hui, mais qui finalement au démarrage, quelques jours après le démarrage, après qu'on ait acté un petit peu les choses et qu'on ait lancé le projet, m'a dit que finalement il souhaitait pas y aller. Et il avait ses raisons et je le comprends très bien. Enfin voilà, je pense qu'il y avait aussi un contexte personnel, etc. Et donc du coup, je me suis retrouvée en fait à me dire ok, en fait là, je suis toute seule. C'était pas du tout ce qui était prévu. Et je me suis donné 48 heures pour décider si j'y allais ou si j'y allais pas. Et si je me lançais quand même, et puis voilà, j'ai décidé de le faire quand même.
Et du coup, c'est comment elle est venue cette idée de Bastille?
Alors, en fait, moi j'avais réfléchi à plein de choses différentes, mais il y avait finalement un truc qui me tenait un peu à cœur, c'était la tendance des produits naturels. Je savais que moi j'avais grandi là-dedans, ma mère était à fond là-dedans, etc. Et en fait, pour moi, ça fait partie des tendances culturelles, sociales, qui sont absolument inéluctables en fait. Et j'ai cherché un domaine dans lequel ça n'avait pas trop été fait. Et donc j'ai regardé plein de choses différentes, et assez vite en fait, au bout de quelques semaines de recherche, je suis tombée sur le parfum. Tout simplement aussi parce que de mon expérience personnelle, moi qui faisais super gaffe à ce que je mangeais, à ce que je mettais sur ma peau, etc., et qui utilisais grosso modo que des produits naturels clean, je savais que le parfum c'était un peu le produit un peu l'irréductible de ma salle de bain que j'arrivais pas à remplacer par quelque chose tout simplement de plus clean, et je savais pas pourquoi. Il y avait pas en fait cette offre sur le marché des marques naturelles mais qui sont aussi quand même sexy et un minimum glam quoi, parce que t'as pas forcément envie d'acheter ton parfum chez Naturalia, et ce truc là n'existait pas trop, et donc j'ai commencé à creuser parce que je me suis demandé pourquoi, tout simplement. Donc j'ai rencontré à la fois des gens du métier, donc des parfumeurs, j'ai rencontré des gens dans des maisons de composition, donc qui sont les grands groupes qui fabriquent pour l'ensemble des marques et qui ont eux-mêmes les matières premières et les parfumeurs en interne. J'ai parlé aussi avec des gens chez des marques, chez des distributeurs, etc. Et en fait,
je fais une petite parenthèse, c'est des gens du coup que tu, c'est des gens que tu avais dans ton réseau, ou c'est des gens où t'as provoqué les...
Alors ouais, il y a eu un petit peu de réseau, effectivement, il y a eu un petit peu de réseau, mais donc toujours de la deuxième ou troisième connexion. C'était jamais des gens que j'avais de façon immédiate dans mon réseau, mais toujours, je trouvais des gens intéressants sur LinkedIn et je me rendais compte qu'on avait des gens en commun, etc. Donc voilà. Et puis quand je commençais un peu à parler du projet, forcément, les gens sont super bienveillants et disent « Ah, mais tiens, je connais un tel, est-ce que ça te tente que je te mette en contact ?» Ouais, c'est parti, go. Et donc voilà. Et après, moi, j'aime bien y aller aussi un peu au culot et contacter les gens comme ça, out of the blue sur LinkedIn, envoyer des mails, etc. Et en fait, c'est fou, mais enfin, il faut absolument le faire. J'encourage vraiment tout le monde à le faire, parce que vous imaginez pas le nombre de gens incroyablement smart et busy qui pourtant sont prêts à donner du temps, à décrocher leur téléphone et à répondre à quelques questions. Et donc, c'est comme ça un petit peu que j'ai fait. Et puis, au bout de quelques semaines, j'ai commencé à avoir des réponses qui ont fait un peu tilt dans ma tête. Et je me suis dit, tiens, OK, c'est intéressant, il faut y aller. Voilà.
Et donc là, tu dis, OK, je veux créer des parfums naturels.
Exactement. En fait, l'idée, c'était, ça n'existait pas vraiment sur le marché pour trois raisons. La première, c'est que concrètement, les ingrédients naturels en parfumerie, c'est très cher. Donc, c'est en moyenne beaucoup plus cher que les ingrédients de synthèse. Et ça, dans un contexte, dans une industrie qui, depuis plusieurs années, a beaucoup de pression sur ses marges. Pourquoi ? Parce que alors c'est des produits qui ont une bonne marge à la base, mais il y a d'énormes coûts de distribution et de marketing surtout. Donc, on sait tous que voilà, les campagnes...
On a tous vu Capital voilà. Sur le prix, sur le marketing, le coût du flacon, tout ça.
Exactement, exactement. Et donc, du coup, ça, concrètement, les dépenses de distribution et de marketing croissantes depuis des années, ça fait que les marques et les grands groupes ont de moins en moins de budget à investir dans leurs ingrédients. Et donc, en gros, la qualité des ingrédients a plutôt tendance à baisser avait plutôt tendance à baisser pendant quelques décennies. Et c'était quelque chose qui frustrait pas mal les parfumeurs parce que c'est des gens qui aiment créer des beaux produits et que parfois, on leur mettait tellement de contraintes économiques que en fait, ils n'avaient plus accès à des matières avec lesquelles ils aimaient travailler, quoi. Donc, ce truc-là expliquait, il y avait l'argument du coût. Il y avait un deuxième argument qui est assez intéressant, qui est un argument vraiment de technique olfactive. Il faut savoir que un parfumeur, ça peut composer, entre guillemets, un parfum avec 4000 notes à peu près. Et sur ces 4000 notes, il y en a à peu près 400 qui sont naturelles. Donc déjà, tu n'as plus que 10% de la palette que tu peux utiliser. Et ces 10%-là, ils réagissent pas du tout comme des ingrédients de synthèse. C'est-à-dire les molécules sont plus, elles sont plus complexes, elles sont plus aléatoires dans leur façon de s'exprimer olfactivement. Et elles prennent un peu plus de place aussi, en fait, que des molécules synthétiques. Et donc, concrètement, les parfumeurs n'étaient pas forcément tous formés à créer des produits dans lesquels il y avait une majorité ou une totalité d'ingrédients naturels. Et le dernier aspect, la dernière raison qui m'a vachement intéressée, c'est quand je me suis rendu compte que le parfum, c'était en fait le seul produit cosmétique qui ne te donne pas accès à sa liste d'ingrédients. Voilà. Donc c'est une zone grise en fait. Juridiquement, c'est encore considéré comme un secret commercial. Donc bien souvent, même les marques en fait ne connaissent pas forcément ce qu'il y a dans leur formule parce qu'elles sous-traitent en fait à des maisons de composition qui elles-mêmes ont la propriété intellectuelle là-dessus. Mais ça crée quoi ? Ça crée en fait une situation où personne n'a intérêt à ce que ça bouge. En fait, en tout cas, les clients finaux, donc en gros toi et moi, on ne sait pas ce qu'il y a dans notre parfum. Non. On n'a pas du tout le réflexe de regarder les ingrédients. Je ne sais pas si tu portes du parfum, d'ailleurs. Non ?
Oui, si, tout à fait.
Ok, est-ce que tu as déjà...
Pas de grande marque. J'en ai deux. J'en ai un pour l'été et un pour l'hiver. J'en ai un qui vient du Labouf.
D'accord.
Et l'autre qui vient... Alors, je ne sais plus le nom de mon parfum. Ça s'appelle « Pluie sur la baie d'Along ». Et c'est en fait un parfumeur. En fait, c'est plein de nez de grandes marques qui font leurs propres parfums et où justement, du coup, tu payes pas le marketing et t'as des parfums et puis t'as vraiment ton identité olfactive. T'as pas le parfum de tout le monde, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est vrai que c'est une tendance hyper intéressante en parfumerie. En fait, aujourd'hui, on est passé d'une ère où il y avait beaucoup de standardisation et un peu une massification du marché à une explosion de ce qu'on appelle la parfumerie niche qui cible là des gens qui sont peut-être un petit peu plus connaisseurs déjà. Alors, il y a plusieurs degrés dans le fait d'être connaisseur du parfum. Moi, je suis beaucoup moins connaisseuse que certains de mes clients qui ont 250 flacons chez eux et qui connaissent tout de l'histoire, du nom de chaque parfumeur, etc. Ils sont extraordinaires. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas cette prétention-là. Mais en tout cas, clairement, dans ce marché de niche aujourd'hui, il y a cette volonté pour les gens de se démarquer et de ne pas sentir comme tout le monde. Parce que ça, c'est sûr que, pour le coup, c'est un truc qu'on a tous ressenti. C'est assez chiant de te balader dans la rue ou d'être dans ton open space et de voir que la nana à côté de toi, elle a le même parfum, quoi. C'est jamais super agréable. Donc, on a tous envie d'avoir quelque chose d'un peu exclusif. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on surfait beaucoup de maisons de niche, justement, qui s'étaient lancées. Donc, il y a énormément de marques qui se lancent chaque année, beaucoup, beaucoup de monde. Mais étonnamment, pas grand monde sur un engagement de transparence des ingrédients. Ça, vraiment, je pense qu'en France, et peut-être même en Europe, on a été les premiers à le faire de façon aussi claire, aussi vocale et aussi jusqu'au boutiste parce que il y avait aussi quelques marques qui donnaient un peu plus leurs ingrédients, mais c'était toujours un peu voilà, c'est des bases, 25% de telle base, etc. Ouais, mais en fait, il y a quoi dans ta base cassis, quoi, en fait. Ah. Parce que ta base cassis, c'est pas un cassis, c'est plein d'autres choses qui vont recréer ton cassis. Et donc en fait, il faut savoir ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et nous, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de faire chez Bastille, c'est de faire de la pédagogie et de justement permettre à chacun de comprendre comment est fait un parfum, de comprendre l'enjeu autour des ingrédients naturels, mais aussi des ingrédients synthétiques qui sont pas du tout tous mauvais. Il y a beaucoup aussi de raccourcis parfois là-dessus. Et nous, on n'est pas du tout dans une posture d'ayatollah. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse comprendre ce qu'il y a derrière les grosses ficelles marketing qu'on voit très souvent sur ce marché et se rapprocher du produit, un petit peu comme tu vois aujourd'hui quand tu rentres chez un caviste. Parfois t'es intimidé parce que tu te dis je sais pas, moi si je suis pas connaisseur en vin, je suis pas super à l'aise, tu vois, d'aller dire donc en général j'arrive et je dis j'ai un dîner, il va y avoir tel plat, qu'est-ce que vous me conseillez de bon. Mais quand le mec t'explique la différence entre tel Bordeaux et enfin tel Saint-Émilion et tel Saint-Émilion, t'es un peu perdu. Et moi mon but c'est que justement les gens, tout le monde puisse rentrer dans une parfumerie et en fait avoir déjà un petit peu les bases de ce que c'est que le parfum, comment c'est fait, et de ne pas d'avoir envie d'apprendre, et puis aussi de ne pas se faire avoir par du marketing qui parfois te montre à grand renfort de champs de fleurs que ce qu'on t'évoque c'est la nature, etc., alors que dedans en fait t'as 95% de synthèse, quoi.
Et du coup, là aujourd'hui, donc tu as eu cette idée-là, et toi, donc tu n'es pas du tout parfumeuse, hein. Écouté la début de l'histoire, on l'a compris. Comment t'as fait du coup pour créer tes parfums?
Comme pas mal de grandes marques et de marques de niche, moi j'ai travaillé avec une maison de composition qui s'appelle IFF, qui est top, et on a décidé de travailler avec eux à la fois parce que ils ont vraiment une tradition de sourcing de matières premières naturelles de qualité dans le sud de la France, avec beaucoup de traçabilité, etc. Et puis ils étaient aussi d'accord sur l'idée de la transparence de la formule, ce qui était quand même pas du tout évident, parce que c'est anti leur modèle, quoi. C'est à des années-lumière de ce qu'ils font. Et depuis très très longtemps. Et d'un autre côté, je savais aussi que j'avais besoin de quelqu'un avec moi, justement pour m'aider sur cette partie technique olfactive et avoir cet avis, on va dire, en interne sur les créations qu'on allait produire. Et donc, mon ancien boss, justement, Philippe, m'a présenté quelqu'un qui s'appelle Anne Bouvel, qui a un parcours complètement dingue. C'est une femme de une cinquantaine d'années qui, en fait, à l'origine, était pharmacien, qui ensuite a fait HEC et qui a bossé toute sa carrière dans les parfums. Et elle était directrice de l'évaluation chez Givaudan, qui est une très très grande maison de composition, très connue. Et l'évaluation, c'est en fait le job d'un évaluateur en parfumerie, c'est un petit peu de faire le lien entre, c'est de coacher les parfumeurs sur leur création, et c'est de faire le lien entre les parfumeurs et les clients. Donc justement de traduire un petit peu le brief du client dans un langage que le parfumeur peut s'approprier, et en même temps il va y avoir cette partie justement vraiment plutôt évocation du brief, etc., atmosphère de ce qu'on a envie de construire et comme création olfactive, et derrière une partie beaucoup plus technique qui est assez impressionnante à voir, honnêtement. C'est un peu les sommeliers, si tu veux, ou un peu c'est un peu les œnologues, voilà, si tu veux. C'est comme si le parfumeur c'est un petit peu le vigneron et l'évaluateur c'est un petit peu l'œnologue, c'est-à-dire il vient après regarder la création et dire, alors là, la mousse de chêne, elle est un tout petit peu en retrait. Ton cacao, en début, il faudrait qu'il soit un peu plus éclatant. L'armoise, elle arrive un peu trop tard, etc. Et c'est fascinant à voir parce que c'est des gens qui ont un talent fou, qui ont clairement pas le même nez que toi et moi, parce qu'ils l'ont exercé avec beaucoup plus d'intensité que nous. et qui voit des choses qu'honnêtement beaucoup de gens ne voient pas. Et donc c'est grâce à Anne qu'aujourd'hui on a pu sortir très vite en plus, parce qu'on est on a eu, enfin moi je me suis lancée sur l'idée en gros en juillet 2019 et on a pu sortir en décembre 2019 quoi en gros.
Ah oui. Ouais,
une collection de 5 parfums. Et ça c'est vraiment grâce à elle et puis maintenant elle fait partie du projet à plus long terme donc c'est top.
Ouais. Et du coup comment t'as fait pour financer parce qu'il a fallu j'imagine financer ouais. La première collection.
Ouais, c'est une très bonne question. Donc déjà, il faut savoir que le parfum a un avantage par rapport à d'autres domaines comme les cosmétiques, c'est que tu n'as pas de frais de développement. C'est-à-dire que tu n'achètes pas une formule quand tu veux faire, je sais pas moi, si demain je décide de faire un gel hydratant pour le corps, une lotion pour le corps par exemple. Donc il faut que j'aille travailler avec un labo et il va me vendre une formule qui est une formule préexistante. Ou alors qu'il aura développé pour moi, mais déjà simplement la formule, ça va me coûter quelques milliers d'euros. En parfum, ça fonctionne pas comme ça. Tout simplement parce que l'idée, c'est que la maison de composition, le parfumeur va travailler avec toi pour développer une formule. En fait, ils vont pas te donner la formule. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu vas pas payer le développement, mais que en revanche, si tu veux ton produit fini, tu vas leur acheter les matières premières. Voilà. D'accord. Et ça, c'est un d'où d'ailleurs à l'origine l'histoire de on révèle pas nos ingrédients. Sauf que en fait, aujourd'hui, ça a plus tellement de valeur parce que tu vois par exemple Coca et Nutella, ils sont obligés de donner leurs ingrédients sur leurs étiquettes et en fait souvent copier, jamais égaler quoi, ou en tout cas jamais exactement imiter à 100%. Donc surtout qu'en parfum, t'as beaucoup plus d'ingrédients que dans un Coca. Tu vas en avoir 50, 100, 200 facilement. Et donc, c'est très compliqué, même si tu sais que, là, on a retrouvé, il y a du basilic, il y a du vétiver, il y a du patchouli. Ouais, mais en fait, les concentrations, tu les connais pas. Et donc, pour recréer.
Et puis, l'origine
chose,
aussi, typiquement, Nutella, ouais. On pense forcément à leur noisette, là où ils vont aller se fournir en noisette, deux noisettes peuvent avoir des goûts complètement différents, quoi.
Exactement, c'est vrai avec le vétiver, où tu vas en avoir qui sont très différents justement, selon si ça vient de Haïti ou pas, plus ou moins fumé, plus ou moins terreux, plus ou moins voilà, plus ou moins retravaillé ensuite après, distillé d'une façon différente. Tu vois, il y a plein de façons d'extraire vraiment donc l'essence des ingrédients, de les transformer en ingrédients de parfumerie, et ça aussi, ça va jouer sur le produit final. Donc finalement, aujourd'hui. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on a pu commencer à ouvrir cette petite brèche dans le marché et commencer à avoir une marque qui n'a pas cette tradition du secret commercial et qui donne vraiment ses ingrédients. C'est aussi parce que concrètement, nous, on prend le risque d'être copié, mais en vrai, je m'en fous. Si demain, quelqu'un copie ce qu'on fait, en fait, tant mieux, quoi. Ça veut dire que le marché bouge, donc très bien.
Et comment vous avez été accueillis, du coup, dans l'univers par...
Ouais, alors c'est marrant ça comme question parce que la parfumerie c'est un tout petit monde et c'est un monde qui est quand même assez fermé à l'origine. Enfin, il y a beaucoup de familles qui sont qui sont dans la parfumerie depuis plusieurs générations. Et donc quand t'arrives avec un profil complètement outsider, franchement, c'est-à-dire que 3 mois avant, tu connaissais rien, donc t'as potassé tes bouquins, t'as fait Anne, elle m'a emmenée faire des sessions, pour vraiment m'éduquer vachement olfactivement, etc. Donc j'ai bien progressé depuis, mais c'est clair que au démarrage, t'as une idée, t'as des slides, t'as l'envie d'y aller, et ça, je pense que moi, ça a été ma chance, c'est que notamment avec IFF, ça s'est tout de suite, on a cliqué. C'est une très très grosse boîte. Hein. Enfin, ils ont des clients qui sont évidemment des centaines de fois plus gros que moi. Mais ce que j'ai vachement apprécié, c'est qu'ils trouvaient que le discours justement était différent. Et le fait que je vienne pas de la parfumerie faisait que je réfléchissais complètement à l'envers par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et clairement, on a décidé de développer notre collection en 6 mois. Et là où normalement, ça peut mettre 2 ans. Ouais, mais nous, en fait, on a envie de le faire plus vite que ça. Et puis, en fait, pourquoi est-ce que ça marcherait pas? On a pu le faire de façon hyper agile avec eux, avec beaucoup d'échanges. Et donc, globalement, par ces gens-là, j'ai été bien accueillie. Par plein d'autres entrepreneurs de la parfumerie, j'ai été bien accueillie. Et par certaines personnes, j'ai été très mal accueillie, pour le coup. Mais qui étaient plutôt des gens qui étaient un peu gênés par la démarche. Et je me souviens notamment de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie dans la parfumerie, qui travaille encore d'ailleurs dedans, et qui m'a dit « Non, mais vous pensez vraiment que Madame Michu, ça l'intéresse de savoir ce qu'il y a dans son parfum ?» Et en fait, vraiment, en entendant cette phrase-là, je me suis dit « ça, mais genre mon level de motivation était passé à 150% instantanément, quoi. » Parce que je me suis dit « Mais vraiment ?» Si vraiment tu réfléchis comme ça, mais t'as rien compris en fait. donc voilà.
Peut-être pas Madame Michu qui a 70 ans, mais Madame Michu qui a 30 ans, oui, clairement.
Ouais. Et ben, figure-toi que ça a été une énorme surprise pour moi que en fait tout le monde. Ça touche toutes les générations. Ça, c'était vraiment hyper étonnant. Moi, je me suis lancée en me disant, OK, concrètement, mes clients, ça va plutôt être des personnes de 25 à 35 ans. Tu vois, des femmes au moment d'avoir leur premier enfant qui souvent se posent vachement de questions. Quand je suis enceinte, est-ce que je peux mettre du parfum? Est-ce que je mets sur ma peau et tout ça? Et en fait, pas du tout. Moi, j'appelle régulièrement, j'essaye toutes les semaines d'appeler des clientes. Je me cale une heure, d'ailleurs, c'est le jeudi après, en général. Et j'appelle mes clientes du e-shop pour mes clients aussi, parce que j'ai aussi des hommes, pour comprendre pourquoi ils nous ont acheté. Et ça m'aide vachement, en fait, de faire ça. Ouais, c'est un jeune qui m'a conseillé ça et je trouve ça vraiment canon. Et ça me permet de me rendre compte à quel point on a des femmes qui ont 50, 60 ans qui sont clientes parce que elles aussi elles se posent des questions parce que leur fille leur a parlé du truc et que du coup elles se disent ah oui tiens elle a raison etc. Ou au contraire c'est elles qui éduquent leur fille là où leur fille de 20 ans elle est beaucoup plus dans la consommation peut-être classique de best-seller ou de blockbuster de la parfumerie etc. Donc finalement je pense que c'est une tendance qui transcende à la fois toutes les catégories sociales et aussi toutes les générations de façon assez intéressante.
Ouais, c'est hyper intéressant de toujours se dire « Ok, moi j'avais une cible dans ma tête, mais en fait finalement, c'est pas du tout ça. En fait, c'est pas du tout les gens que j'imaginais. »
Exactement. Ouais. En fait, c'est la magie de l'entrepreneuriat, c'est que tu as une cible de tout dans ta tête. Donc, tu as une cible de client, tu as une cible de business plan, tu as une cible de produit et rien ne finit comme tu avais décidé au début ou en tout cas comme tu avais envisagé. Donc, c'est ça aussi de se laisser surprendre.
Et pourquoi Bastille ?
Écoute, Bastille pour trois raisons. D'abord parce que je voulais un nom qui symbolise le Made in France. Ça, c'est hyper important pour moi. Et je voulais qu'il soit compris à l'étranger instantanément. Et s'il y a quelque chose que les anglo-saxons connaissent, c'est Bastille Day. Donc, ils savent que ça, c'est notre fête nationale.
Le 14 juillet.
Exactement. Ouais. Exactement. Et lié à ça, je voulais un nom qui quand même évoque le côté un peu révolutionnaire qu'on avait envie d'apporter, le vent de fraîcheur qu'on voulait apporter dans ce monde de la parfumerie. Et puis dernier point, je pense que je voulais aussi un nom qui était mixte parce qu'on parle aux femmes comme aux hommes. Et puis c'est bien, tu vois, ça parle un peu à tout le monde et puis ça c'est aussi la vibe parisienne, tu vois, c'est le quartier où j'habite et où je travaille et où on travaille. Donc voilà, c'est ça faisait d'autant plus de sens.
D'accord. Comment tu célèbres tes réussites ?
Waouh ! Alors, je suis très mauvaise pour ça. Je suis hyper mauvaise pour ça. J'adore célébrer les réussites de mon équipe. Donc là, j'ai deux personnes avec moi. Une qui m'aide sur le marketing et l'autre qui m'aide sur la vente et voilà j'essaye vraiment de quand elle craque un truc, quand elle réussit, vraiment de le dire, de le souligner, et j'adore faire ça. Mais alors moi je suis très mauvaise pour célébrer mes propres réussites. En fait, en général, je suis contente 5 minutes à peu près. C'est à peu près le temps que ça dure. Et après, je pense au challenge d'après et je me dis merde, comment je vais faire ça ? Et du coup, j'ai tendance un peu à il faut que je progresse sur ce truc-là parce que je suis jamais contente de ce que je fais. Je pense que j'ai beaucoup d'exigences et que du coup, je me dis jamais que ce que je fais c'est extraordinaire. Donc il y a des petits moments, des petites minutes comme ça où je me dis ah tiens là on vient de signer. Là par exemple tu vois à chaque fois qu'on ouvre un nouveau pays pour moi c'est un truc super cool. Là on a signé quasi signé hier on a eu un go de notre premier point de vente en Hongrie. Pour moi là j'ai 2 minutes où je suis on fire et puis derrière tu vois je me concentre sur le reste du pipe et les 10 autres qu'il faut que je close, donc ça dure pas très longtemps.
Parce que du coup aujourd'hui on peut acheter donc sur le e-shop sur Bastille, on peut acheter dans des points de vente.
Exactement. Donc en fait, tu peux acheter à la fois sur le e-shop, on a un petit système d'échantillons qui fonctionne assez bien. Donc ça permet aux gens de tester avant de se décider. Et puis on peut aussi acheter en magasin. Et ça, c'était un peu une surprise aussi parce que moi, j'avais un peu un ADN digital. Donc, je m'étais dit, bon, bah, on va faire du full digital. Et pendant au moins 2 ans, 3 ans. Et en fait, pas du tout. Assez vite, on s'est développé en retail. Je pense que c'est essentiel d'avoir une présence en retail parce que ça fait vivre ta marque et que c'est aussi un moyen pour les gens de te connaître et puis quitte à ce que même à la fin, ils achètent sur ton site. Mmh. Et puis en plus, le parfum, c'est aussi un marché de réachat. Donc, t'achètes une fois en magasin, mais si le parfum te plaît, tu vas le garder et potentiellement, bah, tu l'as acheté quand t'étais en vacances à Bordeaux ou à Londres et puis, bah, derrière, tu vas le racheter sur le site, quoi. Donc ça, c'est important pour nous et on est dans une douzaine de pays et on doit être dans une 60aine de points de vente maintenant.
Super.
À peu près. Donc, c'est encore le début, on reste tout petit, mais on progresse bien et on voit qu'il y a des appétences, surtout dans certains pays pour ce qu'on fait, ouais, clairement.
C'est quoi les pays du coup où il y a plus de sensibilité?
Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, donc cet arc-là qui est probablement assez sensible donc à cette problématique du naturel. Mmh. Voilà. On le voit aussi là, on a ouvert notre deuxième point de vente en Norvège la semaine dernière, pareil. Donc je pense que les pays scandinaves sont intéressants là-dessus. Et derrière, on vient de commencer aux États-Unis et on a déjà ouvert 5-6 points de vente là. Et je pense que, alors c'est très différent là-bas. Donc il y a le côté clean évidemment qui est important pour eux. Donc nous, on utilise 95% d'ingrédients naturels. C'est important. On n'a pas fait le 100%. Il y a des bonnes raisons pour ça. Mais à partir de 95%, tu peux appeler ton produit naturel. On formule aussi sans perturbateurs endocriniens, sans additifs. Donc on a pas mal d'autres engagements là-dessus. Et ça leur plaît, mais ce qui leur plaît plus, c'est le Made in France. Donc, en fait, on est au sweet spot, en fait, de la conjonction du clean et du français. Les deux facteurs comptent vraiment beaucoup dans la décision d'achat. Et ce qu'on voit, c'est qu'aux US, clairement, ça fonctionne bien. En tout cas, je touche du bois. Les premiers développements sont positifs.
Le sweet spot pour ceux qui ne sont pas de cet univers. Moi, ça me parle, mais j'ai découvert le mot il y a 5 ans, donc.
Non, bien sûr. Le sweet spot, c'est c'est terrible ces anglicismes. C'est quand t'es au bon endroit au bon moment. Donc le sweet spot, c'est si tu le traduis littéralement, c'est l'endroit où il fait bon ou l'endroit doux, quoi. Et c'est l'endroit où t'es bien sur ton marché. Voilà.
Ouais, ça correspond à quelle était la typologie de ta cible, quel est ton produit, est-ce qu'il s'agit les attentes par rapport à tes clients. Et vous avez reçu un prix d'innovation?
Ouais, carrément. On a reçu, donc en fait, il y a un organisme qui s'appelle la Fragrance Foundation, qui est un peu les Oscars de la parfumerie. Ils aiment bien se définir comme ça. Je trouve que c'est assez vrai. Ça rassemble en fait tous les pros du secteur. Donc il y a à la fois des marques, il y a aussi des très grands groupes, il y a aussi des maisons de composition, etc. Et en fait, pour la première fois, donc en 2020, la Fragrance Foundation, qui décerne chaque année des awards, a décidé de créer un nouvel award qui s'appelle l'innovation responsable. Donc c'était l'idée de dire bah voilà, enfin la parfumerie, elle va aussi non seulement faire attention, il va y avoir l'award du meilleur lancement, du flacon le plus stylé, etc., du meilleur jus, mais il y a aussi un award pour des parfums de grande qualité qui ont une démarche en plus. Et en fait, on a eu la chance de remporter ce prix-là, qui nous a aidé à avoir pas mal de visibilité. Et c'était important pour nous parce que aussi ça sanctionne également vraiment la qualité du jus et l'originalité de ce qu'on faisait, et on met beaucoup d'intensité à faire des parfums qui sont originaux, alors on n'est pas dans la catégorie expérimentale, non, ça c'est sûr, mais on est dans la niche qui est quand même originale, qui se démarque, et c'était important pour moi qu'on gagne ce prix, et puis important pour Anne aussi, et puis surtout pour les parfumeurs, voilà, on a gagné avec un parfum qui s'appelle Bataille et qui a été signé par Nicolas Beaulieu, qui est un parfumeur génial avec qui on retravaille pour nos nouveautés là, et donc on était très contents, à la fois pour nous et pour lui aussi, quoi, pour son travail.
Ouais, c'est vraiment un travail d'équipe.
Complètement.
À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi?
Je pense pourquoi pas moi entreprendre ou pourquoi pas moi en général?
Pourquoi pas moi?
C'est marrant. Quand tu me dis ça, je pense au scoutisme. Je pense au scoutisme parce que moi, j'étais pas du tout dans une famille scout, mais j'ai vachement fait des pieds et des mains pour y aller. Et c'est vraiment un endroit où j'ai appris la prise d'initiative, la responsabilité, le fait de devoir s'occuper de plus petits que soi, de devoir faire grandir les autres et puis de grandir soi-même en dessous de l'autorité aussi. Et en fait, c'est un univers... Moi, j'ai trouvé que c'était un univers incroyable où tout était possible. Et justement, pourquoi pas moi? Bah, tu vois, la première fois que tu pars avec ta patrouille en explo et que tu as la responsabilité de 6-7 guides qui ont quasiment ton âge et qu'il n'y a pas de portable à l'époque et que tu pars toute seule avec une carte pendant 2 jours et que personne ne sait où t'es et que tu te démerdes pour trouver un endroit où dormir, etc. Bah, je pense que c'est vraiment là-bas, moi, que j'ai appris... bah en fait qu'il y avait pas de barrière quoi. Donc que c'était possible et que les filles pouvaient faire des trucs aussi aventureux que les garçons.
C'est quoi la réussite pour toi ?
Je pense que je t'aurais donné une définition bien différente il y a quelques années, même encore très récemment. Avant d'être entrepreneur, je t'aurais dit je sais pas moi la réussite c'est tu vois un truc un peu classique quoi, c'est je sais pas, c'est monter une belle boîte dont t'es fière, etc. Pour moi, aujourd'hui, personnellement, je pense que la réussite, c'est quand toi-même t'es fière de ce que t'as fait. Et c'est d'arriver à te réconcilier. En fait, à pas justement, la vraie réussite, c'est pas dans le regard des autres, c'est dans ton propre regard sur toi-même. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai encore pas mal de taf.
Mais déjà, en être conscient, c'est déjà, comme on dit, la moitié du chemin qui est parcouru.
J'espère. Merci Charlotte.
on en parlait d'ailleurs avec Arnaud Giraudon qui disait que voilà aujourd'hui il a été fondateur de Fortuneo, il a été CEO de Compte Nickel, enfin il était vraiment très en vue et aujourd'hui où il est consultant, il a pu justement se regarder des autres en mode qui lui dirige en mode tu es un patron et il disait que c'était justement un travail qu'il y arrivait maintenant à s'offrir à lui-même sa propre reconnaissance dont il a besoin en fait.
Bah c'est clair. Ouais, c'est sûr et même quand t'es tu vois moi j'ai eu aussi le truc inverse t'es plus VC quoi, t'es plus investisseur donc t'as plus un carnet de chèques avec des millions à distribuer, c'est plus toi qui interviens sur les panels en prenant le micro et en racontant des trucs sur des marchés que en général d'ailleurs tu connais à moitié. Et finalement en fait je pense que c'est pas forcément une question de statut. Parce que tu vois même quand t'es entrepreneur, moi j'ai pas levé d'argent, j'ai autofinancé, on n'a pas parlé de ça finalement, tu vois, je t'ai ouais. répondu, mais moi j'ai lancé sur mes économies perso et donc clairement et après j'ai pris un crédit, mais donc tu vois concrètement t'as pas la fame que j'aurais si j'avais levé 5 millions en commençant ou même 500K, tu vois. Donc finalement c'est une définition qui est mouvante, mais quand tu es en accord avec toi-même et que tu es fière de ce que tu fais au quotidien, c'est ça en fait. Moi, c'est ça que j'essaye d'atteindre. Et c'est pas facile.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Marie-Hortense dirait si elle te voyait aujourd'hui, de 6 ans?
Je pense qu'elle me dirait, je vais encore faire un anglicisme. Go get them. Je pense qu'elle me dirait ça. Elle me dirait vas-y fonce. Parce que de toute façon tu sais pas ralentir donc en fait.
Sois toi-même.
Ça sert à rien de te dire de te calmer. Voilà.
Quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi en lançant Bastille?
Justement, je pense que c'est. Je pense qu'il y a un renoncement à une forme de statut social quand même, parce que je suis sur un sujet quand même très différent de celui sur lequel j'étais avant. Il y a peut-être moins aussi d'émulation intellectuelle dans ma vie, tu vois, quotidienne, parce que quand t'es investisseur, c'est génial, en fait, tu passes ton temps à réfléchir sur les problèmes des autres, mais que sur des trucs intéressants, stratégiques. Enfin, tu vois, t'as pas tout le côté opérationnel vraiment main dans le cambouis. Donc ça, c'est un truc auquel j'ai renoncé. Mais d'un autre côté, tu gagnes tellement en liberté et en et en indépendance que ça vaut tout l'or du monde.
Aujourd'hui, donc là, ça fait 2 ans que Bastille existe, ouais. Et tu arrives à te payer, parce que donc j'imagine que ton chômage va toucher à sa fin ou a déjà touché à sa fin.
Écoute, il vient juste de toucher à sa fin parce que finalement, bah ça, ouais, tu vois, ça a fait 2 ans. En fait, moi, j'ai choisi pour l'instant, je pourrais me payer là. En fait, il se trouve que j'ai fait une mission de freelance, tu vois, un petit peu cette année aussi, en début d'année, donc dans la tech, que j'ai adoré faire. Et je préfère me payer comme ça cette année parce que je préfère réinvestir dans la boîte. Et tu vois, on a été profitable, on a été rentable la première année. Donc, en vrai, j'aurais pu prendre, tu vois, des dividendes, ouais. J'aurais pu, voilà. Mais en fait, moi, je suis pas dans ce game-là pour ça. Enfin, je sais très bien que ce qui vaut de l'argent, à la fin, c'est l'actif que je suis en train de créer. Et donc, pour l'instant, tu vois, là, je finis tranquillement mon année sur cette mission de freelance. Je suis très bien comme ça. Et puis, bah, l'année prochaine, on avisera. Voilà. Ouais.
Donc ça, t'arrives à avoir justement créer ta boîte, la développer et en parallèle faire des missions de freelance.
Ouais, alors j'en ai fait une ou deux et tu vois j'ai dû un petit peu arrêter là cet été parce que j'avais des petits challenges justement là-dessus à accumuler. Mais en fait moi ça m'a vachement aussi aidé parce que je trouve que c'est génial de pouvoir t'aérer l'esprit sur un sujet qui est pas celui sur lequel tu bosses au quotidien. Pareil, tu vois, j'ai gardé, enfin, je suis au board d'une boîte qui fait de la fintech, qui est une super boîte d'ailleurs, qui s'appelle Ogo, et c'est génial parce que ça me permet de, tu vois, j'ai une façon de travailler qui est vraiment duale où, 95% de mon temps ou 90% de mon temps, je suis dans le parfum avec, du marketing, des shootings, des Facebook ads, des galères de prod et, tu vois, des histoires de flacons en verre. Et puis, le reste du temps, tu vois, je garde un pied dans la tech et je pense que j'y reviendrai à terme parce que c'est un sujet fascinant et qui me tient encore à cœur.
Ouais. Et justement, quand tu dis tu y reviendras après, c'est que là, bon, tu développes ton entreprise, tu la développes en me disant je vais la garder 4, 5, 10 ans. Comment?
J'ai pas du tout. En fait, moi, je suis hyper là-dessus. Je me laisse vachement porter par les opportunités. Donc, tu vois, je me suis pas dit. C'est la première fois en fait depuis que je travaille que je réfléchis pas activement au coup d'après. C'est-à-dire quand je suis rentrée chez Bain, je me disais bon c'est pour derrière monter une boîte. C'est 3 ans et puis je suis partie à 3 ans et 1 mois. Tu vois. Pareil par tech, je me disais c'est pour derrière monter une boîte, etc. Là, je me dis en fait. Franchement, je suis évidemment énormément attachée à Bastille. Ça veut pas du tout dire que tu vois dans 2 ans je ferai pas autre chose. Mais ce qui est clair, c'est que je veux la développer jusqu'au bout, au maximum de son potentiel, et que peut-être qu'un jour il y aura une histoire, peut-être que je rejoindrai un autre groupe, peut-être que voilà, ou peut-être pas, et peut-être que dans 15 ans, je serai encore sur Bastille et qu'on fera encore plein d'autres produits qui n'ont rien à voir avec le parfum. Tu vois, là, enfin, sur les bougies, pourquoi pas demain se lancer sur encore autre chose. Donc,
c'est un vrai sujet, les bougies, bougies odorantes, le nombre de bougies odorantes qui sont cancérigènes, ça a fait
plaisir. C'est clair. Ouais, c'est sûr. Nous, on a appliqué justement la même démarche en fait que ce qu'on a eu pour les parfums. On l'applique sur les bougies. Et c'est ce qui est aussi fascinant de travailler un produit, je trouve, c'est que t'as plein d'aspects industriels. Ça, c'est une richesse quand même par rapport, tu vois, au monde de la tech où souvent on palpe un peu des idées, mais sans forcément l'incarner. Et là, t'as des choses extrêmement concrètes. Et quand il faut faire matcher un concentré de parfum et une cire naturelle, végétale, et qu'en fait, t'as des challenges parce que ça craquelle à telle température, machin, tu vois, t'as des limites physiques. Et donc, l'entrepreneuriat industriel, entre guillemets, a ça de bon de te confronter aussi tu peux pas tout imaginer, en fait. Il y a des choses qui sont bloquantes. T'as des contraintes physiques et puis, c'est aussi une source de créativité.
Ouais, clairement. C'est quoi la plus grande difficulté que t'aies eu à gérer en créant Bastille?
D'être seule, très clairement. Ça c'est certain. C'est vraiment, tu vois, je me refais souvent le film de ces 48 heures que je me suis donné en me disant j'y vais pas parce que maintenant je suis toute seule alors qu'on devait être deux. Pour moi, en tout cas, personnellement, parce que je pense que je suis plutôt quelqu'un qui aime interagir avec les gens et tout ça. C'est un énorme défi d'être seule. Je pense que c'est aussi pour ça que je célèbre pas trop mes victoires. Parce que tu vois, t'as pas forcément un co-founder avec lequel les partager, et que du coup tu passes vite à la suite en fait. Donc après j'ai énormément de soutien et de support et de mentors. J'ai mon mari qui est là et ça c'est clair que ça joue énormément. Mais je pense que la prochaine boîte, elle sera probablement en bande organisée.
Ça a été quoi ta plus grande peur?
Alors, je pense que la peur, ma plus grande peur, et c'est pas forcément de l'époque de Bessie, ça a toujours été ça, c'est la peur de l'échec, je pense, vraiment. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est marrant, hein, tu vois, on en revient toujours au regard des autres, mais c'est en gros, si je me plante, qu'est-ce qui va se passer, quoi? En fait, et c'est marrant parce qu'on se fait toujours un monde de ces trucs-là, alors que les autres s'en foutent complètement de notre échec, mais c'est notre regard sur notre propre échec et ce qu'on pense qu'ils vont se dire qui joue. Donc moi, c'est la peur de l'échec et d'un autre côté, c'est aussi un sacré moteur, quoi. T'as juste pas envie d'échouer, c'est tout.
J'imagine qu'il y a forcément eu des choses qui n'ont pas marché dans le...
Clairement, il y a eu tellement de choses qui n'ont pas marché. Franchement, tu vois déjà quand tu te lances 3 mois avant le Covid. Ça fait un peu mal. Il y a évidemment des frustrations, tu vois. Là, par exemple, mon sujet du moment, c'est les pénuries. C'est un mot qu'on entend beaucoup. Et nous, sur notre marché, on y est pas mal soumis, tout simplement parce que on a besoin de pompes, tu vois, pour nos sprays, pour les sprays des échantillons et tout ça. Et qu'en fait, les pompes, elles sont toutes prises par le gel hydroalcoolique aujourd'hui. Donc, on a des énormes problèmes d'approvisionnement. Donc ça, c'est un problème. On a eu évidemment des problèmes de petits défauts de production, de choses qui fonctionnent pas. Donc au début, t'élimines beaucoup, t'itères, t'apprends, et puis je pense que en fait, moi je pense que les sources d'apprentissage sont énormes justement dans quand tu confrontes tes problèmes et que tu vas parler au prospect B2B qui t'a dit non. À la cliente qui t'a laissé un avis négatif, même si tu vois, heureusement que ça m'arrive pas trop, ça m'arrive quand même assez rarement, mais quand ça m'arrive, je prends 2-3 jours pour prendre mon courage à demain et puis je l'appelle et on discute et en fait c'est une source et en fait tu te rends toujours compte que les gens ont énormément d'apprentissage pour toi en tant qu'entrepreneur, mais qu'il faut confronter ce truc et donc la peur de l'échec c'est un moteur, mais d'un autre côté il faut aussi en sortir. Parce qu'au fond, c'est pas, ça doit pas être ton moteur primordial, quoi.
Ouais. Et comment vous gérez, du coup, là, tu veux, par rapport justement aux échantillons, parce que j'imagine que comme t'as une approche naturelle de savoir ce qu'il y a dedans, j'imagine que vous avez forcément une approche aussi sur tout ce qui est éco-responsabilité et le moins de plastique possible.
Ouais, complètement. Alors le plastique c'est un énorme sujet. Donc nous on n'a pas de cellophane dans nos emballages. Donc ça c'est un challenge pour par exemple tu vois pour protéger nos flacons quand ils arrivent en magasin, etc. On a essayé de réduire le plastique au maximum et on est membre notamment de 1% for the Planet. Donc on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à une ONG qui s'appelle Surfrider Foundation. Et qui protège du coup les océans justement de la pollution plastique. Après, on essaye de tout réfléchir justement dans la façon dont on a créé nos échantillons et nos flacons à minimiser l'emballage. Donc, on a du carton recyclé et recyclable qui est fait et tout est fait à Paris. Donc, tu vois, on a vraiment une empreinte sur le transport qui est vraiment ultra minimale. Et normalement, on source tout localement. Et là, j'ai un vrai problème. Pour la première fois, je suis dégoûtée. J'ai dû passer une commande ponctuelle, exceptionnelle, d'un composant en Asie. Mais parce qu'en fait, il y a tellement de pénuries sur le marché qu'on m'a annoncé 8 mois de délai pour un composant qui est essentiel pour moi. Et donc, moi, je peux pas arrêter la boîte pendant 8 mois pour ça.
C'est bon. Et de quoi t'es la plus fière aujourd'hui ?
De quoi je suis la plus fière aujourd'hui ? Alors attends, est-ce que tu m'entends bien ?
Ouais, je t'entends bien.
Ouais, ça y est, c'est parti. Alors, clairement, ce qui me rend la plus fière, c'est les avis de mes clients et notamment ceux qui disent « ça faisait 10 ans que je me parfumais plus parce que j'avais pas confiance, parce que voilà, j'arrivais pas à trouver quelque chose de d'assez unique, d'assez original et puis d'assez clean ». Et en fait, et j'adore vos parfums, j'ai trouvé mon bonheur, et en fait, je peux pas sortir sans celui-ci, etc. Et en fait, ça, pour moi, je me dis, c'est assez ouf quand même d'avoir un impact dans le quotidien des gens. Tu sais, de penser que, en fait, ouais, et t'as des gens, parfois, à l'autre bout du monde. Donc, on a des clients, par exemple, en Indonésie, et qui nous écrivent, tu vois, qui nous racontent ce genre de trucs, et tu dis, c'est ouf, en fait, mon produit. À un moment donné, il s'est retrouvé en Indonésie sur une étagère à quelqu'un qui l'a pris. Et maintenant, tous les matins, ça fait partie de sa vie, en fait. Et ça fait partie de sa personnalité, en plus. Parce que un parfum, ça te définit, c'est hyper émotionnel aussi. Et ce truc-là est super enthousiasmant, je trouve. Voilà. Ah, mais donc, il y a ça. Et il y a quand même aussi un dernier truc que je rajoute, c'est le fait que notre combat pour la transparence commence à vraiment porter. Là, je vois de nouvelles marques qui se lancent derrière nous avec le même discours, et c'est génial parce qu'en fait, encore une fois, on a ouvert une brèche. Et bon, alors, ce que je voudrais, c'est que les grands s'y mettent, mais ça arrivera un jour. C'est le sens de l'histoire. Donc, ouais.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu rencontres qui connaît pas ta vie et qui te dit, tu t'en es là que grâce à de la chance?
Ah, qu'il y ait une personne qui me dise que j'en suis là que grâce à la chance.
Ouais.
Ouais. Moi, ça me rappelle une citation, je ne sais plus qui avait dit ça, qui disait que la chance, c'était Dieu qui signait pas, qui disait pas son nom. Moi, je trouve que c'est assez vrai. Je ne crois pas à la chance. Enfin... Il y a des éléments de chance, bien sûr, parce que bah encore une fois, parfois tu te retrouves au bon endroit au bon moment, mais en fait tu te rends compte que c'est toujours provoqué, ces trucs, en fait. Et surtout, je pense que à terme, un succès, ça se construit jamais sur de la chance. C'est pour ça que parfois, tu vois, entre entrepreneurs, on a tendance à regarder. Je sais, tu vois, ça m'arrive souvent d'entendre des entrepreneurs. On regarde des gens qui ont, tu vois, t'as l'impression que les mecs, ils ont eu, mais toutes les étoiles se sont alignées et toi, t'as que des merdes. Et en fait, eux, genre, ils ont trop bien réussi. Mais en fait, c'est jamais de la chance, quoi. En fait, juste, ils ont réussi parce qu'ils ont été bons. Et oui, peut-être qu'il y a un moment donné, ils ont eu un coup de pouce, mais en fait, moi, je crois pas à la chance. De la même façon, je pense que tu gouvernes pas un pays. Enfin, le succès d'une nation, ça doit rien à la chance. Et donc, je pense que le succès d'une entreprise, bah, ça doit pas grand chose à la chance non plus.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui?
Je pense qu'en fait, c'est de bien choisir avec les gens avec lesquels tu bosses et de les choisir sur les bons critères. On en a parlé ensemble au début de cet entretien. On disait, faut pas survaloriser l'intelligence. Et en fait, ça, je trouve que c'est un truc dont moi, on m'a pas trop conseillé ça. Tu vois, on est vachement en admiration devant les gens qui sont hyper brillants et tout ça. En fait, le premier truc que tu veux, c'est des gens qui partagent tes valeurs. Et en fait, c'est plus important que tout le reste. Voilà. Donc, je pense que c'est ça le conseil.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Ah ouais, je pense que c'est ce prêtre là que j'adore qui m'a dit tu veux pas foutre un peu le bordel dans ta vie à un moment donné où c'était un peu bon voilà, t'as fait ton parcours de bon élève. Il m'a dit ça, quoi. Il m'a dit ouais, voilà, t'as coché les cases, c'est bon là, t'as fait conseil, l'investissement, machin et tout, là maintenant c'est bon, quoi, vas-y, passe la seconde et va mettre les mains dans le cambouis, quoi.
C'est quoi tes prochains défis?
Écoute, mes prochains défis, c'est de planter plein de petits drapeaux Bastille sur le marché américain. Voilà, j'ai envie qu'on soit dans plein de villes, j'ai envie que les États-Unis se disent « Waouh, Bastille, marque pionnière sur les parfums clean ». Et après, j'ai plein de défis perso. Je peux peut-être t'en citer deux. Je pense que c'est trouver un équilibre qui va me permettre de m'épanouir en tant que femme entrepreneur et peut-être un jour aussi mère. Et puis de façon beaucoup plus prosaïque, tu vois, j'aimerais bien commencer à arriver à passer des kite loops en kitesurf, voilà, qui est le truc sur lequel je m'échigne là depuis quelques mois et j'y arrive pas encore, mais ça va venir. Voilà.
Comment on peut trouver du coup tes produits, donc sur ton site?
Exactement, sur mon site. Alors, si les gens sont en France, on est distribué dans pas mal de points de vente. Donc, à Paris, on est au BHV, on est au Galeries Lafayette Champs-Élysées. Là, on va arriver au printemps. Et puis, on a plein de concept stores et de belles parfumeries qui sont aussi listées sur notre site. Donc, ça va de du sud à côté de Cannes à La Rochelle, à Rennes, à Nancy, bientôt à Bordeaux. Donc voilà, faut regarder ça sur notre site.
Génial. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une boutique qui se distribue à Marseille. Je me suis dit que j'allais aller faire un tour.
Exactement.
J'ai pas eu le temps entre le moment où je préparais l'interview, où regarder la liste, mais je vais y aller évidemment.
Ça s'appelle la Maison d'Enine. C'est génial. C'est une équipe de trois jeunes femmes extra qui a lancé ça. Et donc saluez-les si vous y allez de ma part. Donc elles sont top. Faut les soutenir dans leur projet parce que l'endroit est magnifique en plus et ça fait aussi un peu petit café, donc si tu veux aller te poser,
j'irai je ferai une petite soirée sur Insta avec un petit coucou. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
J'ai envie de dire merci à mon mari, à mes parents et à mes mentors, voilà, et puis peut-être à Dieu aussi quand même.
Et pourquoi?
Pourquoi merci à eux? Parce qu'ils ont fait qui je suis aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on est vraiment le résultat de toutes ces interactions et de tout ce qu'ils m'ont appris, qu'ils continuent de m'apprendre. Et puis c'est génial quand la vie c'est un apprentissage et que tous les jours les gens autour de toi te font grandir. Bah, c'est trop cool. T'as jamais cessé de t'émerveiller.
Merci beaucoup Marie-Hortense, merci aussi à Mathéi qui nous a mis en relation.
Et merci beaucoup.
Et puis j'espère à très vite dans la vraie vie en dehors d'un écran.
Avec grand plaisir, à bientôt Charlotte.
Merci.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi c'est énorme. Je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle femme extraordinaire. Au revoir.